Midi 10 minutes, Roxane Bruno. Si jamais on me cherche, eh bien, cherchez pas trop longtemps. C'est maintenant le moment de votre chronique automobile avec l'incomparable Marc Bouchard. Bonjour.
Incomparable.
Ben oui.
Mon Dieu, les allergies frappent fort.
Ben, je l'ai dit tantôt jusqu'aux orteils. Du haut de mes 5 et 1 et 3 quarts jusqu'en bas. Je suis affectée de partout. Ça me fait dire des belles choses comme ça.
Tu vas voir que j'apprécie ça.
Ouais, c'est ça. Plains-toi-en pas.
Non, c'est ça. Je vais en trouver un autre la semaine prochaine. J'ai respecté ma part du contrat. Tu as eu tes roquettes.
Oui, et j'ai respecté la mienne. Il y a dans la cour ici la Audi e-tron GT RS.
Fait que j'avais presque le nom complet, il manquait le S quand je l'ai présenté dans les dernières minutes.
Bon, mais c'est la RS. En fait, la RS, qu'il faut savoir, c'est tout simplement que c'est le haut de gamme, c'est la plus puissante et la plus rapide dans la famille des e-tron. Famille qui est particulièrement réduite, là, il y a deux modèles. Fait qu'il y a la version de base et il y a la RS, tout simplement.
C'est tout ou rien, finalement.
C'est, ouais, mais c'est la version 100% électrique, en fait. D'une voiture grand touring, là, 4 passagers, beaucoup d'espace en arrière, ce qui est assez étonnant, silhouette très, très, très sportive et un comportement... Ah, sportif n'est pas le mot.
Je dirais, c'est agressif.
Ah, mais, ouais, mais oui. Oui et non. C'est-à-dire que c'est extrêmement, extrêmement puissant. Écoute, on parle de 598 chevaux.
Déjà. Okay? Oui.
Déjà. Et si on utilise ce qu'on appelle le launch control, le départ canon, oui. Ça peut aller jusqu'à 646 chevaux.
Wow.
0-100, 3,3 secondes. C'est absolument incroyable. Comme je dis souvent, c'est pas une voiture qui roule vite, c'est une auto qui vole bas.
Parce qu'on reste quand même
Oui. Très, très bas, parce que c'est une voiture qui, bon, justement, est adaptée pour ça. Elle a plusieurs modes de conduite. Un mode plus efficace, donc pour l'économie. Bon, la vitesse maximale est limitée à 140 km/h, fait qu'à low économie. Mm-hmm. Mais, par exemple, tu as les autres modes, dont le mode sport, qui, là, vraiment... affermi les suspensions, le châssis. Donc, c'est un véhicule qui est absolument fabuleux en termes de look, et ça a le même, je dirais, la même architecture que la Porsche Taycan, qui est la Porsche électrique. Donc, c'est monté sur du 800 volts, une grosse batterie, 85 kWh. Ça prend... Si on va dans une borne de recharge rapide, bon, comme il y en a à Sainte-Hélène, par exemple, ou un peu partout, en 23 minutes, on est capable de récupérer 80 % de la recharge.
C'est excellent. Ça prend pas trop de temps avant de pouvoir partir...
Non, c'est ça. C'est que tu peux faire là, l'aller-retour Québec. Mmh. Puis, bon, évidemment, il y a un tout petit léger bémol. Équipée comme elle est là, elle vaut quand même 199 000 $.
Mmh. À peine.
Bon.
C'est tous dans notre budget.
Voilà. Oui, c'est ça.
Oui, vous êtes animatrice radio, c'est normal.
Voilà,
moi, je ne suis que journaliste. Alors, c'est vraiment, vraiment une voiture exceptionnelle. J'ai bien hâte de vous amener à l'intérieur. Oui. Vous allez voir quelque chose de particulier, c'est l'accélération. Une voiture électrique, ça n'accélère pas comme une voiture à essence. Vous avez essayé la Mach 1 avec moi.
Oui.
C'est brutal, c'est brusque, à la limite violent. Dans le cas de la Audi, c'est pas du tout comme ça. Oui, c'est rapide. Oui, on sent la pression, mais c'est fait tout en douceur. Tellement d'ailleurs qu'il faut vraiment faire attention pour garder les limites de vitesse. On utilise beaucoup, beaucoup le régulateur de vitesse parce que c'est facile. Moi, je l'ai essayé sur une route fermée, là, une espèce de circuit fermé, et je peux vous dire que jusqu'à 200 km/h,
On sent rien. C'est silencieux aussi. On n'entend pas nécessairement l'accélération complète du véhicule.
Effectivement, mais Audi a joué, se sont amusés un peu à enregistrer un son qui est diffusé par les haut-parleurs à l'intérieur de la voiture. Donc, évidemment, c'est pas un son de V8 qui gronde, mais il y a quand même... Mais c'est parce que certaines voitures électriques... Bon, rappelez-vous la Mazda. Mm-hmm. Elle avait un petit son strident là, qui était plus proche de la fourchette qui grince dans une assiette qu'un vrai véhicule, alors que là on est vraiment plus proche d'un véhicule. Donc honnêtement, on est dans quelque chose de vraiment vraiment très agréable. C'est l'une des voitures les plus rapides que j'ai essayé en termes d'accélération au cours des derniers mois, et honnêtement c'est une voiture qui est d'une grande stabilité, d'un grand confort. Si j'avais le choix entre la Porsche et celle-là, parce qu'on parle littéralement de la même voiture avec une robe différente, ben l'intérieur est totalement différent. La Taycan est plus soucoupe volante, celle-là un peu moins. Moi, j'opterais pour celle-là, mais ça vient peut-être avec l'âge et la sagesse. Les gens qui aiment plus le côté sportif vont se concentrer du côté de Porsche. Alors honnêtement, c'est deux excellentes voitures, mais ça prend le budget qui va avec.
Est-ce que la Porsche a le même prix que la Audi?
Ouais, puis en fait, la Porsche a même 4 versions au lieu de 2.
Oh. Okay.
Donc, il y a comme une version qu'on appelle Turbo S, qui est encore plus puissante que la Audi ne l'est. Donc, on parle de 225-230 000 $ dans ce cas-là.
OK, ça tourne dans le même...
Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, objectivement, il y a un prix de base mm-hmm. qui est à peu près à 120 000 $ mais bon, comme tous les véhicules allemands, ça vient avec un catalogue d'options qui est épais comme ça. Donc, vous avez toujours des options. Celle-là vaut 164 000 de base, mais il y a 35 000 $ d'options. Incluant une option, par exemple, si vous avez un compte sur Audi Connect, avec votre téléphone, vous pouvez faire stationner la voiture toute seule en étant aux côtés. Là. Vous pouvez la diriger avec téléphone.
Comme une auto téléguidée.
Ouais, littéralement. Donc, évidemment, là, ça devient des options qui sont coûteuses, mais qui sont quand même agréables quand vous avez les moyens de le faire.
Pourquoi pas y aller pour la totale dans ce cas-là?
Exactement.
Et Marc, malgré que la Audi soit un bel événement dans ta semaine, il y a un autre événement qui t'a marqué un peu plus tôt. Est-ce que tu veux nous en parler?
Ouais, en fait, je voulais en parler parce que c'est une question qu'on se pose fréquemment.
Oui.
Quand vous êtes témoin d'un accident, qu'est-ce qu'on fait?
En fait, je ralentis premièrement. Je vois s'il y a des gens qui sont déjà en train de porter secours à la personne, parce que je veux pas être un waireux qui arrête inutilement non plus. S'il y a déjà quelqu'un qui est pris en charge.
Ouais, mais si t'es le premier, encore là, tu te poses la question. Mais alors, je raconte l'histoire rapidement. Ça s'est passé devant chez moi, OK? Devant chez moi, 6 heures du matin, hier matin. J'entends un vacarme, je regarde par la fenêtre, il y a une voiture qui est sur le côté, littéralement, dans la rue chez moi. Je sors, j'étais nu-pied en robe de chambre, mais je ne m'en suis pas aperçu. Je sors avec mon téléphone, premier réflexe, j'appelle le 911.
Bien sûr.
Et quand je sors, je vois l'individu sortir. Quand il est sorti, il panique, je dis à la femme, oh, c'est beau, il n'y a pas de blessure. Il me dit, ma fillette de 2 ans est coincée dans la voiture.
Oh.
Là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Lui, ce qu'il veut faire, c'est ramener la voiture sur les 4 roues pour pouvoir aller chercher sa fille. Moi, je jette un coup d'œil à l'intérieur, je vois que la petite fille, elle n'a rien. Elle pleure pas, elle est là dans son siège d'auto, elle est très stable.
L'impact non plus, lorsque la voiture s'est rangée sur le côté, n'a pas affecté la position de l'enfant non plus.
Non, pas du tout. Elle est toujours dans son siège d'auto à l'arrière, du côté passager. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce que si on ramène l'auto sur les 4 roues, il y a un autre choc. Oui. Mettons que la petite a une fracture. Est-ce qu'on empire la situation?
Mm-hmm.
Alors, je me suis posé la question. Finalement, il y a d'autres hommes qui sont arrivés. Ils ont fini par rebaisser la voiture. Les pompiers, tout le monde est arrivé. Tout a été pris en charge. Et le père paniquait, bien entendu. Mais moi, tout ce que je réussissais à faire, c'est de rester en ligne avec le 911 et essayer de calmer le monsieur. Mais ma question, c'est, est-ce que j'aurais dû intervenir? Parce que là, je me suis senti coupable toute la journée en disant, est-ce que j'aurais dû faire plus pour aller chercher la petite immédiatement? J'ai communiqué avec des premiers répondants. La réponse, c'est non, j'ai eu le bon réflexe. C'est-à-dire que si jamais vous devez intervenir parce que la situation est grave, le feu, il y a de l'essence qui coule, oui, vous pouvez intervenir, mais normalement, vous ne touchez pas aux personnes qui sont dans une voiture dont la situation ne risque pas de s'aggraver parce que vous ne savez pas ce que vous faites, à moins d'avoir une vraie formation médicale. Par contre, si vous êtes obligé de le faire, et ça, c'est une nuance importante, vous ne pouvez pas être tenu responsable des dégâts supplémentaires, même si vous avez, par exemple, brisé une jambe à quelqu'un, là, on ne peut pas vous en tenir responsable, à moins que ce soit de la négligence évidente. Là. Si vous allumez un briquet quand il y a de l'essence qui coule, ça se peut que oui. Là, Mais donc, la première responsabilité, c'est appeler le 911, ne touchez pas aux blessés, à moins que le 911 vous dise « oui, la situation est dangereuse, sortez-les ». Donc, moi, je me suis senti coupable toute la journée. J'étais quand même content de savoir que j'avais fait la bonne chose. J'étais triste pour le monsieur. Aucune blessure, ni lui, ni sa fille. Tout s'est bien terminé. Mais à voir le nombre de questions que j'ai eues par la suite, parce que j'ai partagé l'histoire sur ma page Facebook, et j'ai eu une tonne de commentaires en privé aussi de gens qui me disent « ouais, mais c'est quoi la bonne réponse? » Bien, la bonne réponse, c'est celle-là. Attendez les secours, ne touchez pas, à moins qu'il y ait un risque d'aggravation.
Et si on avait été un premier répondant, parce qu'il y a des gens qui ont leur cours, ils auraient pu intervenir à leur tour.
Effectivement.
Comme ils sont qualifiés pour...
Exactement. Comme si vous êtes... c'est sûr que si vous êtes infirmière, si vous êtes médecin, vous avez une formation médicale, OK, c'est correct, vous êtes en mesure d'établir un minimum d'évaluation, mais... autrement, si vous êtes aussi sans dessin que moi pour ce genre d'affaires-là puis que la vue du sang ne vous fait pas nécessairement plaisir, vous êtes mieux de tout laisser cela et d'attendre, et plutôt de vous assurer que le 911 a toutes les informations détaillées pour savoir, il y a tant de personnes, il y a tant d'individus, c'est de telle façon. C'est beaucoup plus efficace que d'essayer de jouer au héros, en fait.
Merci d'avoir fait le point. C'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment comment réagir dans ce genre de situation, mais la base étant d'appeler le 911, si on est qualifié, on peut intervenir. Sinon, on attend les secours.
Sinon, on ne touche pas à moins d'un danger immédiat.
À moins que, ça explose dans les prochaines minutes. On est mieux de sortir tout le monde de là avant.
Effectivement.
Un gros merci, Marc, de la discussion de ce midi. On peut te retrouver sur ta page Facebook. Tu as lancé des beaux débats hier, donc il va en avoir au courant des prochaines semaines. On invite nos auditeurs à s'abonner et à t'écrire s'ils ont des questions.
Ça me fait plaisir de répondre à tout le monde, ma chère.
Merci beaucoup. On te souhaite de passer une agréable journée.